There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Le PlayStation Plus évolue, Monkey Island revient, Epic lance l'Unreal Engine 5 et tout le reste de l'actu, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Les derniers mots un petit peu lentement parce que je cherchais le bouton pour lancer le jingle. Et oui, c'est la fatigue, c'est la maladie, je suis complètement crevé, donc si je suis un petit peu moins dynamique dans cet épisode que dans les précédents, j'espère que vous me l'excuserez. Je suis revenu en Finlande, les enfants étaient malades, ma femme était malade, et du coup maintenant, moi bien sûr, je suis malade aussi, les enfants sont à la maison. C'est le chaos total, mais heureusement, nous avons deux forces stabilisatrices pour cet épisode. Il y a bien sûr, d'une part, Jika, qui revient comme tous les mois. Comment ça va, mon petit Jika ?
Ouais, coucou. Bah, très bien. Très bien. Des démarches compliquées, parce que pour une fois, je ne suis pas chez moi.
Ouais, alors on entend. Rapproche-toi du micro, parce que tout à coup, ça on ne t'entend presque pas.
Ok, formidable. J'espère que ça va aller. Je suis désolé. La prochaine fois, je resterai chez moi. Mais là, ouais.
je non, mais là, on t'entend vraiment presque pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, on t'entend moins bien.
Laisse-moi régler mes soucis.
D'accord. Et du coup, en attendant, on va dire bonjour à Mylène, alias Konala, qui nous rejoint après, un an, deux ans qu'on ne t'a pas eu dans l'émission. Salut, bienvenue.
Salut, ouais, ça fait un peu longtemps. Après, force dynamique, moi, je sors du Covid. Donc bon, je suis encore un peu fatiguée. Je pense que c'est la maladie. Je fais partie de cette vague qui est revenue de la GDC avec le Covid. Donc voilà.
Écoute, on va faire notre possible avec Jika qui, visiblement, a dû se déconner. Voilà, faut pas aller au boulot. C'est ça la leçon, en fait, à retenir.
Le télétravail, c'est le bien, télétravail, depuis exactement. Le temps qu'on le dit.
Toi, tu connais bien ça puisque tu es PR marketing freelance pour un certain nombre de développeurs et d'éditeurs. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ton avis et ton regard sur l'actu. Et il y a une grosse actu. Alors, on va commencer à en parler peut-être même avant que Jika revienne. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais avant, quand même, on remercie les Patriotes. Attendez, c'est important. Yann Fécamp, Florian Guillard, Simon PCD, Christophe Pagano, Tom BL, Nanos Gardial, Simon Boisvert et Johan Tirapati qui est revenu dans les Patriotes. Alors, je ne sais pas s'il a eu un souci, mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais parti. C'est Johan, c'est celui avec qui on fait le Super Laser Punch, le podcast sur les films et les séries Marvel, dont on vient d'enregistrer un nouvel épisode sur Moon Knight. On est un peu tiède dessus, hein, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter ça. Et bien sûr, le producteur Benjamin, qui est parmi ceux qui ont trouvé le niveau secret, hyper caché de producteur, et qu'on remercie chaque mois. Merci beaucoup à Benjamin et à tous les Patriotes. Et Jika est revenu, juste à temps pour parler de l'actu. Avant de se lancer, est-ce qu'on t'entend, Jika ? C'est important.
Bah écoutez, ça vous de me dire, est-ce qu'on m'entend mieux, là ?
On t'entend, c'est très bien. Merveille de la technique.
Bon, ok, c'est bon.
Tu vois, que j'ai fait le pire, mon PC a craché, moi. Ah, heureusement que je suis sur ton téléphone. Je pense que c'est l'édition des problèmes techniques.
C'est ça. Non, mais c'est bien parce que ça me fait monter l'adrénaline et du coup, je suis plein d'énergie tout à coup. Alors qu'en fait,
ça travaille, ça travaille.
C'est ça. Bien. Merci à tous les deux de me faire peur. Comme ça, on aura une émission avec un tout petit peu d'énergie. Vous savez quoi ? On va se lancer dans le début des infos à retenir, très importantes. La plus grosse info, je crois, de ce mois-ci, même si certains me disputeraient ce titre avec des singes qui sont sur des îles, c'est les annonces du nouveau PlayStation Plus, PlayStation Plus mis à jour, qui a été annoncé la semaine dernière, après des mois de rumeurs. Alors, je vais décrire rapidement de quoi il s'agit et puis on va pouvoir en discuter. Le PlayStation Plus était dans une position un petit peu, en retard par rapport au Game Pass et donc de nombreux observateurs et joueurs se disaient « Est-ce que Sony va faire changer vers évoluer son PlayStation Plus pour être un petit peu concurrent du Game Pass ?» Alors, sur la forme, ça peut y ressembler. Sur le fond, peut-être un petit peu moins. C'est ce dont on va parler dans un instant. Mais de quoi il s'agit ? Le PlayStation Plus, en fait, est fusionné avec le PlayStation Now, qui était le service en fait, d'abonnement à un catalogue de jeux qui était disponible en téléchargement et en streaming, en téléchargement pour la plupart et en streaming pour une partie. Et le nouveau service est disponible en 3 niveaux. Ils sont un tout petit poil compliqués. Certains ont dit que c'est incompréhensible. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais il y a 3 niveaux différents. Ce que je disais sur le Discord, c'est que bon, on arrive à lire un menu dans un restaurant. Bah là, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les PlayStation Plus Essential, donc essentiel, qui est le PlayStation Plus tel qu'il existe aujourd'hui. Jeux multijoueurs pour les jeux payants. Il y a beaucoup de jeux gratuits qui sont disposés sans PlayStation Plus, hein, comme sur Xbox. Et des jeux, entre guillemets, inclus, j'allais dire entre guillemets gratuits, mais inclus 2 à 3 jeux chaque mois, comme c'est le cas aujourd'hui pour le PlayStation Plus. Il y a ensuite le PlayStation Plus Extra, qui inclut un gros catalogue de plusieurs centaines de jeux PS4 et PS5 en abonnement, qu'on peut accéder sans limite tant qu'on est abonné, évidemment. Ça, c'est une grosse partie du PlayStation Now. Et le PlayStation Plus Premium, qui est le niveau ultime, qui inclut, en plus de tout ce qu'il y a dans les niveaux d'avant, des jeux rétro, c'est-à-dire PSP, PS1 et PS2, qui sont téléchargeables et streamables, et des jeux PS3 en plus de ça, et PS3 et PS4 qui sont streamables également. C'est-à-dire qu'on peut... le truc à retenir dans ce tir-là, c'est que les jeux PS3, on ne peut pas les télécharger, même si on entend des rumeurs selon lesquelles Sony essayera, c'est en train de travailler au fait de pouvoir les télécharger, donc d'émuler la PlayStation 3 sur PS5 uniquement. Mais pour le moment, tout ce dont j'ai parlé, c'est disponible sur PS4 et sur PS5, donc sur les 2 consoles. Donc il y a 3 niveaux différents, PS Plus classique, PS Plus Extra qui ajoute un catalogue de jeux et PS Plus Premium qui ajoute, en plus du catalogue de jeux PS4 et PS5, des jeux rétro PS1, PS2, PS3 et PSP, avec en plus pour ce niveau Premium un petit bonus supplémentaire qui est des trials de jeux, des jeux disponibles à tester pendant quelques temps, puisque la caractéristique essentielle, la différence essentielle entre le Game Pass et le PS Plus nouvelle version, qui font qu'ils ne sont pas vraiment sur la même, dans la même cour, on va dire, c'est que les jeux PlayStation récents, les gros AAA, ne seront pas inclus dans ce catalogue, quel que soit le niveau. Ce qui sera inclus au niveau le plus élevé, ça sera des c'est pas vraiment des démos, mais c'est des trials, donc on pourra jouer à certains jeux récents, on ne sait pas exactement lesquels, on ne sait pas exactement combien de temps, quand on aura le niveau premium. Donc imaginons, God of War sort là à l'automne, s'il n'est pas retardé, le nouveau God of War sort à l'automne, eh bien, quand on est abonné au premium, on peut imaginer qu'on pourra le tester pendant 5 heures, ça fait partie du bonus premium, et qu'il y aura, on espère, tous les jeux AAA de Sony qui seront inclus dans ces formules trials. Au niveau du prix, beaucoup de gens donnent les prix en mensuel. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas intéressant, quoi qu'il arrive, en mensuel, à moins de vouloir essayer le truc ici ou là. On a 3 formules qui vont de 9 à 17 euros en mensuel. Ça fait quand même très cher. Pour moi, les abonnements, ils vous poussent vraiment à vous abonner en annuel. Et en annuel, on a des formules qui sont un petit peu plus intéressantes. 60 euros, comme c'est le cas aujourd'hui pour les PS Plus classiques. Pour le PS Plus Extra, qui inclut donc le catalogue PS4 et PS5, on a un prix à 99 euros en annuel. Et pour le PS Plus Premium, et c'est là, je crois, qu'il y a une subtilité que beaucoup ne voient pas, c'est, entre guillemets, seulement 20 euros de plus par an. Donc, le passage du normal au Extra, il est quand même, c'est une grosse marche à monter, c'est 40 euros par an, mais ensuite, comparativement au prix qu'on paye déjà, il y a seulement 20 euros par an en plus pour arriver au niveau maximum, ce qui fait 120 euros par an. Clairement, je crois que Sony espère qu'on va s'abonner en annuel et c'est, à mon avis, même pas intéressant de s'abonner en mensuel, outre cas très particulier. Donc voilà pour le panorama de ce qu'est cette nouvelle formule du PlayStation Plus. Je vais me tourner vers JK. Est-ce que toi, tu penses que c'est une formule qui peut être intéressante? Et puis surtout, la comparaison au Game Pass, beaucoup de gens la font. Qu'est-ce que tu penses de l'entrée de Sony dans cette arène?
Bah, je pense que c'est encore assez complexe à analyser et il faudra voir concrètement quand l'offre ça là, parce qu'aujourd'hui ce qui nous manque quand même c'est un vrai catalogue détaillé de ce qu'il y aura de disponible en fait, c'est des listes de jeux tout simplement, et ça pour le moment on les a pas vraiment. Et
je précise qu'on a ni la liste de jeux inclus dans le catalogue version extra, donc les jeux PS4, PS5, ni les jeux PSP, PS1, PS2, PS3 du catalogue premium, ni même les détails des trials, c'est-à-dire qu'on n'a pas de promesse sur est-ce que tous les jeux Sony seront inclus, ou de promesse sur le temps qu'on pourra y jouer. Est-ce que c'est 2h, 5h, 10h, on ne sait pas du tout.
C'est ça, ouais. Et donc du coup, moi, à titre personnel, là, j'attends de voir ce qui est composé, ce qui compose cette offre. Aujourd'hui, c'est vrai que le PlayStation Now, il est, par exemple, aujourd'hui, PlayStation Now, donc c'est le truc complémentaire au PS Plus, avant la fusion. Au niveau du catalogue, si on s'intéresse un peu aux jeux rétro, t'as des jeux PS2, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai plus un problème avec leur technologie de streaming qui est clairement pas à la hauteur de beaucoup de concurrents. Ça, c'est encore autre chose. Après, je trouve que malgré tout, l'offre, elle est compréhensible, mais je trouve que, surtout dans la part de Sony, je la trouve quand même inutilement complexe, en fait. Effectivement, ils vont pousser, comme tu dis, probablement l'offre annuelle au maximum, celle à 120€ par an, je crois, donc comme ça, quelque chose comme ça.
Premium, c'est 120.
Globalement intéressant. Voilà,
c'est 60, 100, 120 pour les trois niveaux annuels.
Ouais. Qui est globalement intéressante, mais je pense que surtout les gens vont peut-être s'essayer de se dire bon, je paye un mois, parce que moi je sais pas, psychologiquement j'ai toujours du mal à me dire je vais lâcher 120€ d'un coup et je m'engage sur un an, quoi. Donc je pense que les gens vont d'abord tester le service peut-être pendant un mois, en tout cas moi c'est ce que je ferai probablement, et après en fonction de l'intérêt que j'y trouve, en fonction de comment marche la techno de streaming aussi, peut-être lâcher effectivement 60 ou plus par an. Et voilà, et quant à la comparaison par rapport au Game Pass, c'est quand même deux philosophies différentes. C'est-à-dire que Microsoft, eux, ils te disent, tu payes ton Game Pass, tu joues où tu veux, tu joues sur ton PC, sur ton smartphone, même sur ta Xbox One, tu fais ce que tu veux et tu as une offre complète. Sony, quand même, ils ont quand même cette façon de mettre en avant leur licence en disant, c'est Jim Ryan qui le disait, et que s'ils faisaient ça, en fait, donc inclure tous leurs jeux first party dès le lancement,
ça dévalorise les jeux,
voilà, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, là pour le coup j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est ça montre bien la différence de philosophie entre Sony et Microsoft, qui eux pensent avant tout à ta console Sony avec ton jeu Sony, et réfléchissent pas encore en termes d'offres globales. Microsoft, ils sont vraiment passés à autre chose, et donc du coup c'est presque deux offres qui sont évidemment on compare, tu vois, mais qui sont finalement pas si comparables que ça. J'attends vraiment de voir le catalogue et effectivement les trials et combien de temps. Si par exemple tu peux jouer 10 heures à God of War, alors je pense que 10 heures, j'y crois pas trop, mais comme fait EA aujourd'hui, EA Access, tu peux jouer en avant-première, avant la sortie du jeu, tu peux commencer à jouer, ça peut être un argument intéressant.
Il y a des détails là-dessus, effectivement, qu'ils n'ont pas encore donné. Préciser, le PS Now coûtait 60€ à l'an, à l'année. Aujourd'hui, il n'est plus disponible à l'année. D'ailleurs, il y a une petite astuce qui a été partagée pendant quelques heures avant que Sony ne referme l'erreur pour s'abonner longtemps. Et du coup, moi, je me suis abonné au PS Now pendant 3 ans, je crois, parce que mon PS Plus arrive à échéance. Et du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que si vous êtes abonné au PS Now, pour la durée de votre abonnement PS Now, Sony vous donne le premium. Et du coup, ça donne aussi accès, si je ne me trompe pas, au PS Now sur PC en streaming. C'est vrai, tu le disais, le streaming n'est pas la meilleure technologie de Sony, la meilleure technologie de streaming. Elle est, allez, on va dire correcte, mais elle est clairement en retard d'un truc comme Stadia ou GeForce Now. On va voir si elle va évoluer avec le passage à la vitesse supérieure qu'ils font en juin. Hein. On ne l'a pas précisé, mais ça sera lancé en juin. tous ces changements. Ils ne sont pas encore actifs. Mais du coup, 120€ par an, c'est l'équivalent de PS Plus plus PS Now par an. Donc, la formule est vraiment mergée avec un truc intermédiaire en extra à 100€ par an. Et oui, on peut parler un petit peu plus de la comparaison Game Pass PS Plus. Mylène, toi, tu y vois quelque chose d'attrayant pour les joueurs PlayStation, ces nouveaux niveaux de donnons-leur plus d'argent à Sony pour différents services. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah moi, je suis d'accord sur différents points. Le fait que ce qu'il faut regarder, c'est le prix annuel, mais à mon avis, ça aurait peut-être été intéressant de faire un prix annuel, mais lissé par mois. Il y a des systèmes qui font ça, hein, où on va payer, enfin, notamment des outils pro, où on va payer à l'année, mais quand même prélever tous les mois, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de lâcher 120€ comme ça, surtout
d'un coup, tu veux dire.
On sait qu'actuellement, oui, c'est ça, d'un coup, ouais. Donc ça, il y aurait peut-être eu un truc à faire là-dessus. Et pour moi, c'est surtout que je trouve effectivement l'offre complexe assez inutilement. Le extra, à mon avis, on aurait clairement pu s'en passer. Là où Xbox, enfin pour moi du coup on vise pas vraiment le même public, parce que Xbox c'est assez clair en fait, c'est si je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses, je regarde les formules, j'ai le Ultimate où je sais que j'ai tout, et après j'ai potentiellement que PC ou console, c'est assez limpide ce que je vais avoir dedans, c'est ah ben je suis joueuse console uniquement, bah peut-être que je vais aller juste sur l'abonnement console. Parce que pareil, pour moi le cloud gaming ça concerne, enfin la plupart des gens savent pas ce que c'est quoi. Ouais. Donc c'est un truc cool, mais que tout le monde ne comprend pas encore. Alors que bah dans Sony, il faut vraiment effectivement regarder toutes les lignes du ah ok, mais ça c'est quoi, qu'est-ce que j'ai en plus, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils s'adressent pas tout à fait au même public non plus, et que pour être intéressé par les offres PlayStation, il va déjà falloir être un joueur averti sur ce genre de sujet en fait. Là où et... Xbox, pour moi, c'est la promesse du je prends un abonnement et j'achète plus de jeux en fait.
Ouais. Complètement. Enfin, j'achète plus de jeux, pas forcément, mais j'ai
quasiment
plus besoin
plus.
D'acheter des jeux, ça c'est sûr. La complexité du truc, pour moi, je crois que le extra est clairement un produit d'appel pour le premium. C'est genre, bah allez, tu considères le extra, mais c'est seulement 20€ de plus pour le premium, alors que s'ils avaient viré le extra, il fallait doubler la mise pour mettre le premium. Donc je crois que c'est un petit trip psychologique pour te dire, bah si, allez, c'est bon, le extra, il est sympa, t'as tout le catalogue, mais regarde, pour seulement 20€ de plus, t'as le premium. Et puis les trials, qui sont un gros produit d'appel, je pense, quand on aura les détails, hein, parce que moi, je pars du principe qu'il y aura tous les jeux Sony avec, on va dire, au moins 10% du temps de jeu. Parce que oui, clairement, pour un jeu qui fait 15 heures, ils ne vont pas te donner 10 heures de trial. Mais on va dire à 5 heures minimum, ça devient peut-être intéressant pour tester, entre guillemets, tous les jeux. Mais la différence avec le Game Pass, elle est très claire. Moi, je la formule de cette manière. Pour moi, le Game Pass, c'est un deal qui est un facteur d'achat de Xbox. C'est-à-dire que si tu te demandes quelle console acheter... tu te dis, alors je regarde ces deux offres, le Game Pass, ça peut me convaincre d'aller sur Xbox plutôt que sur une autre console. Alors que ce nouveau PS Plus, il n'est pas tout à fait dans la même cour. C'est vraiment une formule qui est là pour tirer un petit peu plus d'argent, inciter les joueurs qui sont déjà sur PlayStation à donner un petit peu plus d'argent à Sony. Moi, je crois que c'est ça le but vraiment. Et le PS Plus, qu'il soit en normal, extra, essential, premium, deluxe, machin, il y a même une formule deluxe pour les pays où il n'y a pas de streaming, ça va convaincre personne d'aller sur PlayStation plutôt que sur une autre console. Le truc pour convaincre les gens d'aller sur PlayStation, c'est les gros AAA, comme on en parle depuis des mois, les grosses releases, les Last of Us, les God of War, les Horizon, machin. Donc ça, c'est leur stratégie. Et la raison pour laquelle ils ont lancé ce truc, c'est vraiment en se disant « Attends, les services, tout le monde en fait, il y en a partout. Nous, on n'en a qu'un à 60€ par an et l'autre, on a 48 millions d'abonnés pour le PS Plus, seulement 2 pour le PS Now. Clairement, le PS Now, il ne sert à rien, il est mal brandé. Même si le service est cool, et moi, je le dis depuis longtemps, je pense que le service était cool, il attirait pas les gens. Donc, autant prendre tout ce qu'on a là-dedans, le rebrander et tirer un petit peu plus d'argent des gens qui sont abonnés au PS Plus Essential, au PS Plus normal, parce que là aussi, je crois que personne qui n'est pas déjà abonné au PS Plus va... Enfin, personne, j'exagère, mais peu de gens qui ne sont pas déjà abonnés au PS Plus vont être intéressés par les formules supplémentaires. Donc l'idée est vraiment de convertir une partie de ces 48 ou 50 millions d'abonnés en... abonner Formule Plus et donc faire rentrer un petit peu plus d'argent par ce biais, je crois.
Ouais, mais c'est ce que je disais, du coup, c'est pas le même public, quoi. Ouais. Mais après, la question, ce sera sur le catalogue, notamment, qui fait la force d'Xbox, c'est tout le catalogue avec des indés, des One, etc., dans le Game Pass. À voir si Sony, c'est quelque chose qu'ils pourront se permettre, si au final, ils n'attirent pas plus de personnes, mais qu'ils en convertissent que certains vers une version upgrade, combien ils pourront se permettre de dépenser dans ces achats-là, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et pareil avec les trials, par exemple. Il n'est pas dit que, bon, d'une part, que tous les jeux Sony sont en trials, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des jeux d'autres éditeurs qui arrivent en trial aussi, possiblement. Mais oui, si c'est une formule qui séduit peu de gens, bah, ils n'auront pas envie d'investir beaucoup. Donc oui, ça pose cette question, c'est sûr. Donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation.
Surtout que Sony... Surtout juste que Sony, effectivement, il y a encore quelques années, ils étaient très très, ils étaient à fond avec les studios indés, ils étaient beaucoup en avant des projets indés, etc. Ce qui est moins le cas, j'ai l'impression quand même depuis quelques années, ils se sont recentrés sur leur licence. Et alors, à l'inverse de Microsoft, qui via le Game Pass va mettre en avant des petits jeux entre guillemets. Récemment, t'as eu Tunic, t'as eu Weird West, des choses comme ça, quoi. Qui n'auront peut-être pas eu la même visibilité sans un truc comme le Game Pass, quoi.
Ouais, c'est clair.
Bah après, ça c'est plus aussi un enjeu de store et de visibilité. Enfin, Sony, ils sont mauvais là-dessus, quoi.
Ouais, il y a eu un gros scandale dont on parlait. Une grosse affaire il y a quelques mois, et ils ont dit qu'ils avaient conscience de la chose et qu'ils allaient changer un petit peu leur attitude et leur store. Mais oui, au-delà de ça, la relation avec les indés, de manière générale, a été détériorée ces derniers mois, c'est sûr. Et ces indés sont une force du Game Pass aussi. Moi, je veux penser que cette nouvelle formule sera intéressante, mais c'est vrai que l'absence de précision sur le catalogue, par exemple, on parle de plusieurs centaines de jeux de la PS4 et PS5, surtout PS4 évidemment. Pareil, quelques centaines de jeux PSP, PS1, PS2 et PS3. Aujourd'hui, sur le PS Now, des jeux PS2 ou PS3, ça se compte sur les doigts des deux mains, quoi. Il y en a très, très peu. Alors, j'imagine qu'ils vont en amener plus, mais il y en a très, très peu en l'état actuel des choses. Et du coup, quand tu as des consoles qui ont eu des catalogues aussi vastes, il faut bien se rendre compte que on faisait un épisode sur la conservation du jeu vidéo et le rétro gaming la semaine dernière avec Fabrice de Recallbox. Sur ces catalogues hyper larges, quelques centaines de jeux, ça va être des trucs très limités, quoi. Il y a des milliers de jeux sur ces consoles. Donc, on ne sait pas du tout qu'on aura accès à catalogue.
Il y a des milliers de jeux, mais il y a quand même énormément de jeux qui sont aujourd'hui, quoi, extrêmement mal vieillis. Donc, s'il y a une vraie bonne curation de la part de Sony et des éditeurs tiers, et qu'on se retrouve avec tous les bons jeux qu'il y avait à l'époque, il y en avait beaucoup, bien sûr, tu vois. Mais je sais pas, moi, je pense, par exemple, si on peut rejouer au premier God of War sur PS2, à Final Fantasy XIV, tu vois, c'est des exemples. Hein,
bien sûr. Mais c'est pas, tu as accès à tout le catalogue, tu vois. C'est pas genre, j'ai l'abonnement pour tout le rétro gaming de la marque.
Mais à la limite, moi, je préfère une bonne curation avec les vrais bons titres qui t'as aussi mettre en avant. Des jeux qu'on a un peu oubliés, tu vois, des trucs qui étaient cool, mais qu'on a un peu oubliés et qui sont difficilement trouvables aujourd'hui, plutôt qu'un truc balancé comme ça, sans aucune curation, où tu sais pas à quoi jouer en premier, quoi.
Ouais, après, il faut aussi que ça soit bien adapté. Parce que je suppose qu'il y a quand même du boulot pour l'adapter sur les nouvelles consoles, etc. Soit jouable de manière agréable, quoi.
C'est vrai que s'ils font le boulot dessus,
ne serait-ce que sur une nouvelle télé aussi. Les formats, les définitions sont plus les mêmes et tout, donc effectivement, il y a du boulot, quoi. Ouais. Et n'oublions pas quand ils ont sorti la PlayStation Classic Sony, ça n'a pas été un grand succès en termes de ce qu'ils ont proposé. Donc on espère qu'ils ont appris des leçons, on va dire, de l'échec de la PlayStation Classic pour faire un truc un peu plus carré, quoi.
Ouais, l'émulation n'était pas top. Il y a eu plein d'histoires à ce sujet. Bah, écoutez, moi, final, je pense que les abonnements seront intéressants. Bah, maintenant, je suis abonné pour 3 ans, hein, au prix du PlayStation Plus normal, parce que j'ai profité de cette petite entourloupe qui est maintenant plus disponible, malheureusement. Donc, on verra bien. Mais moi, je pense que c'est vraiment une formule qui est un deal cool, mais qui n'est pas comparable avec le Game Pass, qui est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo. Donc, puis, il faudra voir comment ça évolue quand les vrais exclus Microsoft vont vraiment arriver sur le Game Pass. On a Starfield, rien que Starfield en fin d'année, ça va jouer un petit peu. On a eu Forza, on a Halo. Bon, ils n'ont pas révolutionné le monde, mais c'est quand même des trucs qui comptent, quoi. Là, on va voir avec Sony ce que ça donnera. Et puis, ce que je veux dire, c'est que Microsoft va avoir beaucoup de gros third parties qui vont arriver dans les années à venir. Et là, ça pourra faire bouger les lignes. Bon, à propos de jeux qu'on a oubliés, que plus personne dont plus personne ne se souvient.
Attention à ce que tu vas dire là. Fais gaffe, Patrick. Hein. Je suis à deux doigts de déconnecter. Hein.
Petite surprise. Il y a quelques jours, Monkey Island, qui est un jeu vraiment mythique dans les cercles d'une certaine génération, on va dire, et a annoncé son retour par la voix de Ron Gilbert, ou plutôt Ron Gilbert a annoncé le retour de Monkey Island avec le troisième épisode, combien 30 ans après le deuxième, Return to Monkey Island, qui arrivera en 2022 et... Pour tout vous dire, je l'avais mis dans les petites news à passer rapidement, mais j'ai eu une objection formelle de JK, et donc on le passe maintenant.
Ah, c'était une blague, t'étais pas obligé, tu vois, mais je t'étais pas obligé parce que je...
Non, mais ça parle à beaucoup de gens. Thaïlande,
mais
ça a fait du buzz, il y a plein de gens.
Mais attends, sur Twitter, alors sur mon Twitter de vieux boomer, oui, c'était la folie, tout le monde était en feu, quoi.
Alors c'est quoi Monkey Island, pourquoi il est si important et pourquoi le retour ?
Non, mais... En fait, en vrai, c'est quand même un double. Pour moi, c'est un double événement parce que, d'une, c'est un vrai nouvel épisode. En fait, tu dis c'est Monkey Island 3. Il y a déjà eu un Monkey Island 3, 4, même 5 qui sont sortis après. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'on, donc le fameux Ron Gilbert, qui est un développeur de jeux, hein, récemment, vous l'avez peut-être connu, il a fait Thimbleweed Park, donc, qui est un jeu d'aventure à l'ancienne, et juste avant, quelques années avant, The Cave, qui est un super jeu. Il est à l'origine de ça, en fait. C'est quasiment le créateur du point and click, hein, dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc les jeux d'aventure en 2D où tu cliques à l'écran pour progresser. Et en créant Monkey Island, il a vraiment créé une sorte de standard à la fois en termes d'interface et surtout d'écriture. On avait un jeu qui pour la première fois était à la fois très drôle, était très méta, avec beaucoup d'anachronismes et tout, mais c'est mon jeu préféré. Tu me dis, cite-moi ton jeu vidéo de ton meilleur jeu vidéo, c'est ton jeu vidéo préféré, c'est Monkey Island. Mmh. Et en fait, il est parti après le 2, donc le 1 et le 2 ont vraiment sa patte, et après le 3 et le 4 et le 5 ont été faits par d'autres personnes, et ce sont des bons jeux globalement, attention, hein, globalement ils ont fait du bon boulot. Mais c'était pas... Ron Gilbert a toujours dit que ce sont des bons jeux, mais c'est pas du tout de ce que lui il avait en tête s'il avait dû faire un 3. Et donc ça fait des années qu'on tanne, que les gens disent à Ron Gilbert, est-ce que tu veux faire ça? Et lui, il a toujours dit officiellement, publiquement, qu'il aimerait beaucoup faire un Monkey Island 3, mais que c'était compliqué parce que la licence aujourd'hui, il faut rappeler quand même que c'est LucasArts. Donc LucasArts, c'est Lucasfilm. Donc Lucasfilm, c'est Disney derrière. Donc tu vois un peu l'espèce de pyramide qu'il y a derrière d'Empire. Et la bonne idée, c'est qu'a priori, Disney a décidé de lâcher la licence, enfin de lâcher, de prêter la licence Monkey Island à Devolver. Donc, on l'a pas dit, mais ça va être édité par Devolver. C'est co-créé avec le label Lucasfilm, LucasArts, Lucasfilm Games, je t'avoue que je sais pas.
Oui, le nouveau label Lucas pour l'édition de jeux tiers.
C'est plus un label, hein, parce qu'en interne, ils ont plus de...
C'est Lucasfilm Games.
C'est ça, ça revient vraiment au terme des tout débuts, quoi. Et donc Devolver a bossé avec Ron Gilbert et il n'y a pas que lui, il y a aussi Dave Grossman, donc un des programmeurs d'origine, il y a les compositeurs de la musique d'origine, enfin c'est vraiment la team de l'époque, quoi, sur ça. Et donc à la fois c'est un nouvel épisode, c'est super cool, et en plus surtout c'est l'équipe d'origine et c'est le vrai Monkey Island 3 que tous les fans attendent depuis le début. Et moi j'ai vraiment eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça sur Twitter, parce que en plus, et ce qui est fou, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils bossaient dessus depuis 2 ans. Et alors certes c'est pas des énormes projets avec des centaines de développeurs, mais ils ont réussi à garder un secret total sur le truc et tout le monde a été pris par surprise, quoi. Ça a été une vraie surprise, et c'était génial de voir à la fois les développeurs. Je crois que t'as Neil Druckmann qui est sur Twitter, qui a tweeté en disant qu'il était trop content. Enfin, tout, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un jeu, je pense, qui a influencé énormément de développeurs en fait dans leur carrière. Ça, c'est un jeu qui a lancé des carrières, c'est un jeu qui a vraiment inspiré énormément de monde. Et d'ailleurs, dans Uncharted, tu as des références à Monkey Island, par exemple, dans Uncharted 4. Et voilà, donc c'est absolument génial. Après, on verra le résultat, évidemment. Là, on a eu un court teaser qui est très joli. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, il qu'ils tombent pas dans le piège de refaire du pixel art, ce que moi j'aurais aimé, tu vois, mais je trouve que c'est bien qu'ils fassent pas ça. C'est un jeu en 2D qui a l'air très 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 stylisé, très sympa, et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'en plus la fin, enfin historiquement en fait, si vous avez joué à Monkey Island 2, la fin de Monkey Island 2 est très étrange et se termine un peu de manière un peu bizarre, et on n'a jamais su exactement ce qui se passait après, donc on aura peut-être enfin la réponse 30 ans après. C'est formidable, et évidemment que c'est moins important pour le grand public que le PlayStation Plus et ce genre de trucs, bien sûr, Patrick. Mais à titre perso, je trouve que c'est un truc. Et c'est mine de rien, il y a quand même eu beaucoup de. Ça a beaucoup fait parler.
Complètement. Je le mentionne parce que c'était l'un des événements, tu vois. Mais juste pour qu'on. On va avancer, mais est-ce que tu saurais définir pourquoi ce jeu a une telle place dans l'inconscient collectif de cette génération de joueurs PC, quoi? C'est parce que il est quand même, je crois que beaucoup de gens comme toi, si on dit quel est le meilleur jeu, enfin le jeu dont vous avez les meilleurs souvenirs, beaucoup de gens diront Monkey Island. Est-ce que tu saurais définir pourquoi? Ou c'est juste...
Je laisse la parole à Mylène après, parce qu'elle voulait parler. Mais,
ah pardon, excuse-moi.
Vas-y, Mylène, peut-être pour rebondir sur ce que je disais
avant. Non, je voulais juste dire qu'un des trucs qui va, je pense, être assez difficile, c'est aussi mesurer la hype et le potentiel parmi les joueurs, parce qu'en fait, on a souvent une idée un peu biaisée, effectivement, parmi les devs, parmi les journalistes, parmi les gens qui sont très intéressés au sujet du gaming. C'est un jeu qui revient beaucoup. La question, c'est à quel point ça revient aussi parmi les joueurs, entre guillemets, lambda, en fait, qui sont vraiment juste les joueurs. Et ça, c'est toujours un peu des pièges, je trouve, quand on va sur des vieilles licences ou des trucs qui ont marqué une génération. C'est le potentiel commercial sur le plus grand public, en fait. Bon, là, on reste quand même sur une prod, à mon avis, on est sur une prod un peu plus modeste, rien que le fait de réussir à garder le secret, pour moi, le montre. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les joueurs vont recevoir ça, quoi.
Oui, je crois que j'ai l'impression qu'ils sont conscients. Hein. Je disais PC, c'était même... c'était PC, mais c'était aussi l'époque Amiga, Atari, etc. Il était même sur Mac. Et c'était 90.
Voilà, Amiga, Atari, c'était un des jeux micro, quoi.
90 le premier, 91 le deuxième. 91 pour le deuxième. Donc oui, ça remonte, hein, c'est sûr.
Ouais. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, en fait, je pense que pour beaucoup, ça a été... c'est quand même nostalgique, parce que ça fait partie probablement des premiers jeux, ton premier jeu vidéo pour beaucoup. Et moi, à titre perso, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens à qui je peux parler autour de nous, je sais pas, par exemple, chez ZUSD, on a Oupi qui est tout aussi fan de moi que de Monkey Island. Et c'est aussi, je pense que c'est la première fois que, quand on y a joué, donc on avait, moi j'avais 10 ans, titre perso, j'avais 10-11 ans, et c'est là que tu comprends aussi que le langage du jeu vidéo est différent du reste, c'est-à-dire que tu peux, et surtout, le jeu vidéo c'était pas que des trucs d'arcade où tu tirais sur des machins, sur des pixels, quoi, c'était, tu pouvais rire devant un jeu vidéo, tu pouvais avoir de l'absurde, tu pouvais avoir des références au cinéma, tu pouvais avoir des trucs comme ça, et c'était, à l'époque en fait, c'était vraiment nouveau, pour le coup, c'était littéralement nouveau. Et en fait, ça, et voilà, et puis derrière, bon, t'avais toute cette imagerie, cette ambiance de piraterie loufoque à la Pirate des Caraïbes, mais Pirate des Caraïbes, l'attraction de Disney, tu vois, qui s'est inspirée ensuite, ils se sont tous inspirés mutuellement, même le film Pirate des Caraïbes a des références à Monkey Island, c'est pour te dire, quoi. Et donc voilà, donc c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, je pense que même si ça reste, comme disait Mylène, un truc, je pense, à la fois probablement de gens qui ont mon âge, une quarantaine d'années, parmi le genre du jeu d'aventure, c'est quand même un truc qui est tout au-dessus, en fait, qui est tout au-dessus de la pile, Monkey Island, ça reste ça, quoi. Et derrière, en plus, l'aura à son niveau de Ron Gilbert en tant qu'auteur, en tant que mec qui sait faire des choses à la fois drôles et étranges, etc., elle est toujours là, parce qu'en plus c'est pas comme s'il avait rien fait depuis Monkey Island 2, tu vois, il a fait plein de trucs qui sont plus ou moins connus, mais il a toujours été là, en fait, il a toujours montré qu'il savait faire des jeux cool et des jeux bien écrits, donc je suis quand même assez confiant, quoi.
Vas-y, Mylène.
C'est un autre point, parce qu'effectivement, Thimbleweed Park, ça a été, je pense, un succès commercial, mais ça a pas non plus... c'est pas un des hits indés de l'année là où il est sorti, en fait. Donc c'est aussi ça qui permet de voir que, et pourtant c'était très marketé avec Ron Gilbert, etc., quoi.
C'est vrai.
Donc c'est pour ça qu'on va voir si avec le nom Monkey Island, ça peut aider.
Ouais. Et, voilà, et puis d'un autre côté, effectivement, c'était pas un méga hit, mais il était... Pardon, Ricard.
Non, je disais juste que Symbiote Park, c'était kickstarté, c'était auto-édité. Ils ont réussi à faire leur com eux-mêmes, parce que voilà, là, ils ont Devolver derrière, ils ont une licence quand même qui est connue. Donc, ça aura évidemment plus de succès Symbiote Park. À quel niveau, oui, ça, je ne sais pas, effectivement.
Ouais. Bien entendu.
Et c'est vrai que Gilbert, il n'est pas... Parce qu'il y a plein de créateurs comme ça qu'on ressort des années 90 et qui n'ont pas fait grand-chose depuis... Lui, il est dans le game. Il est resté dans le game pendant longtemps. Puis, il a fait des trucs qui sont au moins sympas, quoi. Et qui plaisent à son public. Voilà. Donc, à voir ce que ça donnera avec Monkey Island. Mais j'aime bien cette explication de cette... en fait, d'un des jeux emblématiques qui ont fait partie de la transition de l'arcade à quelque chose de plus, quoi. Ce type de narration vidéoludique qui était pas possible avec des bornes où on mettait, j'allais dire un euro, mais un franc toutes les deux minutes pour continuer à jouer. Et c'était vraiment le passage à l'ère, bah, on a des jeux un petit peu différents qui peuvent raconter quelque chose, quoi.
Et tout simplement, on a un scénario, on a une histoire, tu vois.
Pour moi, tout l'enjeu, ça va être de faire la passation, en fait, de faire en sorte que les gens dont c'est le premier jeu vont avoir envie de le faire découvrir à leur gamin, en fait. Et que ça marche. Pour moi, c'est un peu tout l'enjeu du truc, quoi. Ouais. Notamment sur les plateformes. Enfin, je ne sais pas si les plateformes ont été annoncées, mais pour moi, c'est un jeu qui aurait complètement du sens sur une Switch.
Ah, bah, j'imagine qu'il y sera, oui. Je pense que...
Je sais pas.
Encore que, est-ce qu'on peut... Ah, les point and click qu'on a sur des consoles, maintenant. Donc, mais bon... À voir. Là, on commence à faire peur à Jika. on verra.
Non, attends, tu rigoles. Les adaptations de Monkey Island 1 et 2 là, qui sont sorties, les spéciales éditions, elles sont sorties sur console et c'est super jouable. Hein, le fait que sur console, ça sera très bien.
Tout le monde est content. Super, bah merci pour ce petit topo. Du coup, j'ai passé quelques sujets en sujets un petit peu plus rapides dont on parlera tout à l'heure parce que j'aimerais qu'on prenne le temps quand même de parler des jeux auxquels on joue en ce moment, et on va commencer tout de suite avec... Ah merde, non, stop! Stop, Patrick, t'as oublié de parler de Patreon, donc je vais le faire vite fait. Hein. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. De soutenir l'émission financièrement, si vous appréciez, si vous trouvez qu'on vous fait passer un bon moment et qu'on vous informe, et ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission financièrement incroyable, merveilleux, et vous devenez patriote et vous avez accès à plein de petits bonus sympathiques, du contenu bonus, des épisodes sans pub, des épisodes avec des time codes, enfin bref, et surtout la fierté, la joie, le bonheur de faire partie des gens qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. patreon.com/rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, et vous dites « Ah, mais Patrick !» patreon.com/rdvjeux, bien sûr, tout de suite. Et merci en avance à tous ceux qui le feront et qu'on remerciera dans l'épisode de la semaine prochaine. Ok, maintenant ça va, on peut...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hop, c'est reparti. Les jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, les gros morceaux, ça va être de la part de JK. Donc, peut-être qu'on va rapidement parler des jeux auxquels on joue, nous, Mylène et moi. Et puis après, on passera c'est quand même des grosses sorties. Mylène, tu refais It Takes Two, toi, en ce moment ?
C'est ça. En fait, je l'ai déjà fait l'année dernière, enfin, il y a quasiment un an, pas loin de sa sortie avec un ami. J'avais adoré le jeu. Vraiment, je me suis marrée du début à la fin. Et là, mon copain ne l'a pas fait. Donc, je le refais avec lui. Là, en ce moment. Du coup, j'ai quand même pris l'autre personnage, histoire de me dire comme ça, je vais tester l'autre gameplay, en fait, que tu ne testes pas au final.
Mais c'est très différent, mais ouais, suis... les deux, c'est pas genre, bon, un coup tu fais ça, un coup tu fais ça, c'est vraiment des... Moi, je l'ai pas fait, hein, donc...
C'est pas... Enfin, ça change... Enfin, pour moi, le gameplay n'est pas le seul intérêt du jeu, mais oui, en fait, c'est tout le temps des mécaniques complémentaires. On joue tout le temps, on a tout le temps... Par exemple, il y en a un qui va planter des clous, l'autre qui va avoir le marteau, en fait. Donc, c'est toujours des mécaniques de jeu complémentaires, donc ça change quand même quelque chose, et puis t'es pas obligé de toujours... prendre le même chemin, de temps en temps il y en a un qui doit guider l'autre, donc bah, si la première fois tu as été guidé, la deuxième fois tu vas faire l'inverse, etc. Donc ça change pas tout, mais c'est quand même mieux que juste de refaire la même chose, quoi.
Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir à voir, anticiper, tu sais, les réactions de ton copain parce que tu sais ce qui va se passer, ou est-ce que ça t'énerve qu'il n'arrive pas à faire les trucs pile comme il faut, parce que toi tu les as déjà fait et donc tu as l'habitude? Il y a cette ce facteur aussi qui joue quand tu le refais, ou c'est juste réexpliquer?
Alors, bah, j'ai mémoire de poisson rouge, donc non, okay. Notamment sur les gameplays, les petits puzzles, il y a des trucs que j'ai oubliés. Et, je sais qu'on n'y est pas encore arrivé, mais il y a un ou deux moments de narration qui m'ont vraiment marqué. Et du coup, j'ai hâte d'y arriver et de le regarder, d'être en mode ah, comment il va réagir, comment il va réagir, mais on n'y est pas encore arrivé. D'accord. Après, c'est pareil, le jeu il dure quand même 15 heures, donc il y a quand même des choses que dans la narration, je sais que je vais redécouvrir parce que j'ai veillé et entre-temps, j'ai fait plein d'autres jeux, quoi.
D'accord.
Bon. Mais ouais, ça me gâche pas le plaisir parce que je sais pas, c'est comme regarder un film que t'as déjà vu, tu vois. Tu vois d'autres choses, en fait.
Ouais, ouais. Mais tous les jeux sont pas dans cette catégorie, donc c'est intéressant à noter. En plus, il est dans le Game Pass, hein, je me trompe pas, depuis
Ah, peut-être, moi je l'avais acheté à son époque, donc je l'ai encore.
Et sinon, tu joues aussi, alors là c'est pour le boulot, ça va faire petite partie promo du coup, RoboQuest, qui est déjà dispo, c'est bien ça.
C'est ça, c'est un jeu qui est en early access sur lequel je travaille, donc j'y joue. Alors à la base j'y jouais pour le travail et maintenant j'y joue parce que je kiffe le jeu, en fait. C'est pareil, donc j'y joue en coop, donc c'est un jeu qui joue en solo ou en coop à deux, et en gros c'est un fast FPS avec des mécaniques roguelike et qui a un petit côté aussi Borderlands dans la DA. Donc voilà, je m'éclate pas mal là-dessus. Bah, pareil, je joue aussi avec mon copain en coop là-dessus. Et
d'accord. C'est assez fun. C'est des runs en FPS en coop à deux ou plus que deux?
Ouais, c'est ça, à deux.
À deux, d'accord.
Seul ou à deux. Et ouais, c'est des runs avec un système de salles, des niveaux générés aléatoirement, des boss. Tu loot des items et tu peux débloquer des améliorations de run en run.
J'étais en train de me... En fait, j'ai beaucoup entendu parler de... Pardon, J.K.?
Non, je dis, tu as prononcé le mot Fast FPS, donc tu as tout de suite eu mon intérêt. Je vais regarder ça. Tiens.
Mais justement,
en
moi,
plus,
je me...
En plus, c'est intéressant parce que le jeu n'est pas très connu en France, alors que c'est un studio français, c'est un studio lyonnais qui fait ça. Et le jeu a déjà un petit succès parce qu'il est sorti il y a un an et demi en early access, je crois, et il va atteindre les 3000 reviews sur Steam, et il est très, très bien noté. Genre, je crois qu'on a plus de 90% d'évaluation positive, donc c'est un jeu qui marche bien. Mais quand j'en parle dans la sphère du jeu vidéo français, personne ne les connaît, en fait, donc c'est assez intéressant.
Je vais aller y jeter un coup d'œil. J'avoue que j'étais, en fait, depuis une semaine, je regarde des reviews et j'écoute des podcasts qui parlent de Tiny Tina, et ça m'a donné envie de faire du FPS un petit peu fast. Et là, c'est un petit peu... ça répond à ses attentes, mais avec en plus le côté roguelite qui fait genre tu peux te faire un petit run, c'est tranquille. Donc, j'ai peut-être m'y intéresser. C'est combien de temps les runs en moyenne?
Ça dépend. Moi, je ne suis pas très bonne. Donc, ça va durer 20 minutes. 20-25 minutes, ouais. Okay. J'ai pas encore réussi à. J'ai pas tant joué non plus, mais j'ai pas encore réussi à vaincre le premier boss.
Ah oui, d'accord.
Okay, il y a un système assez cool, tu vois, où quand tu meurs, ton pote peut te réanimer et du coup, il te donne la moitié de sa vie. Donc, quand t'es mauvais. Okay. Voilà,
quand t'es mauvais, tu bouffes toute la vie de ton partenaire.
C'est ça, de ton pote.
C'est ça,
ou alors qu'il faut qu'il soit mauvais aussi, et du coup, tu meurs. En plus, ce qui est assez marrant, une petite anecdote, c'est que le boss du studio s'appelle Mylène aussi. Voilà.
D'accord.
Ça m'a fait rire en travaillant dessus.
Donc, ça s'appelle RoboQuest, et c'est l'un des jeux sur lesquels tu bosses. Bah, écoute, moi, j'irai y jeter un coup d'œil. De mon côté, on arrive au... il faudrait un jingle pour Elden Patrick, cette série incroyable de Patrick qui joue à Elden Ring. Je crois qu'on arrive au bout. C'est un petit peu le season final, là. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé ces deux dernières semaines. J'ai continué à jouer, bien sûr. Je crois que la dernière fois à l'épisode précédent, j'avais battu le deuxième boss. Et j'ai continué à jouer, j'ai continué à avancer. Et en fait, je suis allé directement à un niveau qui, a priori, est le boss d'après. C'est-à-dire pas le quatrième, mais... enfin, pas le troisième, pardon, mais le cinquième. Et moi, j'ai pas du tout su que c'était le cas et que j'étais en train de sauter un boss. Et j'y suis allé, j'ai fait toute la zone, c'était super sympa, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je suis arrivé au boss... Et si vous vous souvenez, le premier boss, j'avais mis, je sais pas, 50 essais. Le deuxième, j'ai mis 10 essais. Et celui-là, qui était pour moi le troisième, je l'ai battu en 2 essais. En 2 essais, et c'est pas que j'étais surlevelé par rapport au truc. Je l'ai battu en 2 essais, donc j'étais un petit peu surpris. Mais bon, je suis allé en parler sur Twitter, et on m'a dit, mais... Attends, mais c'est pas lui normalement le boss machin. Normalement, il y a truc. Et je me doutais d'où il était le vrai troisième, entre guillemets. Donc j'y suis allé et je l'ai battu du premier coup. Alors là, pour le coup, j'étais surlevelé et en plus, je suis tombé juste dans la fenêtre où il était nerfé. C'est Radahn, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Je suis tombé juste sur la fenêtre où il était nerfé. Il a été dénerfé. Là, il y a 2 jours, dans un nouveau patch. Donc il est redevenu. C'était l'un des boss les plus durs du jeu. Et il a été nerfé, là, donc, il y a quelques semaines, et dénerfé maintenant. Donc, moi, je suis tombé pile dans cette fenêtre. Mais quand même, je crois que disons que ça m'aurait pris peut-être un petit peu plus de temps, mais franchement, je l'ai battu du premier coup. Je ne pense pas que ça aurait été impossible. Et j'ai continué un petit peu après encore, et il y a des boss optionnels, enfin des side boss qui sont beaucoup plus durs. Il y en a sur lesquels j'ai passé 10, 15, 20 essais, hein. On pense à la gargouille un petit peu noire là qui vient après la ville, et puis dans le truc une autre zone où il y a 2 gargouilles, c'était très très dur, mais j'ai réussi à les battre aussi. Mais du coup, ça fait 60 heures de jeu. J'apprécie toujours beaucoup le jeu, mais je crois que je commence à arriver à un niveau où je me dis, bon, peut-être envie de faire un petit peu autre chose. Et je pensais pas... Moi, je pensais faire 10 heures hein, sur le jeu. Donc, 60, c'est déjà incroyable. Mais je crois que je suis arrivé... En plus, je suis revenu en Finlande. Il y avait les enfants malades. Maintenant, je suis malade, tout ça. J'ai l'impression que ça a un petit peu cassé l'élan.
C'est la fin d'une époque, en fait.
Un petit peu, ouais. Un petit peu. Je crois que j'ai un peu envie de passer à autre chose. Alors, j'aurais pas fini le jeu. Peut-être que j'y reviendrai à un autre moment, hein, c'est possible. Mais je pense que il reste, à ce stade, il est probablement mon GOTY. Hein. C'est de très loin le jeu que j'ai le plus apprécié depuis le début de l'année. Pourtant, il y avait de la matière. Mais ouais, je crois qu'on arrive au bout de la saison 1 de Elden Patrick, quoi. Tu joues toujours, toi,
juste sans... Ouais, bah j'ai fait une petite pause pour jouer notamment, bah, je vais parler juste après. Alors sans spoiler le boss, le fameux quatrième boss que tu pensais être le troisième, c'est celui où il y a 2 phases et la deuxième, t'es un peu dans une espèce d'hello et il a une grande lune.
Ouais, c'est le boss tout rouge, quoi. La grande lune, non, mais ça c'est le deuxième. Je l'ai battu en 10 essais sans problème, celui-là. Ça c'est le deuxième.
En fait, ça dépend si Margit, si tu le considères comme le premier boss ou pas. Quoi.
C'est ça, oui,
Margit,
tout à fait.
Il est tellement vénère que... Bon.
T'as raison. En fait, quand je parlais...
C'est le vrai deuxième boss. En fait.
C'est le vrai, ouais, le vrai deuxième... En fait, je parlais je considérais que Godric est le premier. Mais c'est vrai que Margit est le premier, en fait. Donc, ouais, tu peux rajouter un. T'as raison. Celui avec la lune, c'est celui que je considérais comme deuxième. Donc, en fait, c'est le troisième. Du coup, je suis allé au cinquième direct en passant le quatrième, qui est le tout rouge. Bon, d'accord. Ceux qui ont suivi le jeu ont compris.
Je suis même pas là. Moi, je suis à 40 heures et là, je suis plus dans des phases où j'explore beaucoup. Je me perds un petit peu. Je bats des semi-boss, donc des boss qui peuvent être chauds par moment. Mais là, je suis parti dans une zone hyper loin sans avoir battu de boss principaux. Enfin, en fait, le dernier boss principal que j'ai battu, c'est celui dont je te parlais juste avant avec la lune. Ouais. On parle en code, c'est ridicule, mais voilà. Mais je pense que je suis comme toi là. Je trouve le jeu toujours extraordinaire. Mais là, je pense que voilà, je fais une petite pause. Je vais y revenir. Je le finirai pas, probablement pas, mais c'est pas grave, tu vois. Clairement, c'est pour moi, c'est une expérience qui, je veux dire, c'est pour faire une métaphore, pour employer un terme à la con, c'est pour le coup, c'est vraiment le voyage qui compte et pas la destination, quoi. Ouais. Sur Elden Ring, le terminer, c'est bien, c'est sans doute très bien, mais je ressens pas le besoin non plus, quoi.
Pareil, ouais. Et puis moi, j'ai exploré énormément, hein. J'ai exploré à peu près autant que je pouvais. Je suis allé partout, j'ai vu des trucs incroyables. Ouais, non, mais j'ai eu quelques moments, je disais la dernière fois où il y a deux épisodes, je disais j'ai eu un moment où ma mâchoire est tombée par terre, et pourtant il faut s'accrocher hein, pour me faire ça dans les jeux, et j'en ai re-eu un ou deux, alors peut-être un petit peu moins fort, mais effectivement il y a eu des moments où tu fais mais, ah oui, d'accord, et c'est assez fou quoi. Bon, je sais pas très précis, mais oui, j'ai clairement exploré énormément et j'en tire un plaisir et des souvenirs qui ne disparaîtront jamais, quoi. Bon, on verra si on va plus loin. Mais c'est vrai qu'au bout du cinquième boss, il y a quand même un truc où tu te dis bon, ils en ont quand même rajouté beaucoup, quoi. C'est le truc. Et puis bon, les environnements me plaisent un petit peu moins.
Ouais, et ce qui revient un peu, maintenant qu'il y a quand même les gens en plus de recul et qu'on passait pas mal d'heures, parce que le défaut qui revient quand même globalement, c'est qu'il y a énormément de boss, mais finalement beaucoup de boss qui se ressemblent et il y en a presque un peu trop, tu vois. Ils ont voulu en mettre beaucoup, et au bout d'un moment, ça devient un poil redondant. Voilà, c'est vraiment quasiment le seul défaut, enfin au-delà des défauts d'ergonomie, etc., mais qui sont propres au jeu From, c'est vraiment le seul défaut qui est pointé du doigt principal du jeu, quoi.
Ouais, je me demande s'il est pas un peu trop long, effectivement, parce qu'en plus, j'ai l'impression que mes 60 heures, c'est la moitié du jeu, quoi. D'après les échos que j'ai, je sais pas du tout jusqu'où on va dans le jeu, mais ouais, j'ai l'impression d'être à la moitié. Donc tu te dis, ok, là j'ai vécu, je me suis enchaîné les trois Seigneurs des Anneaux, il y en a encore autant devant moi, tu vois, au niveau de la durée, c'est un peu
dur. C'est ça. Bah, c'est un jeu qui est vraiment à la carte pour le coup, et par exemple, j'ai un collègue de bureau, il l'a fini en 60 heures. Tu vois, il a été jusqu'au bout. J'imagine qu'il n'a pas fait tous les boss, il n'a peut-être même pas exploité toute la map, mais en tout cas il a battu le dernier boss au bout de 60 heures.
Ouais, bon,
c'est déjà pas mal.
Écoute, donc Eldon Patrick, on verra si je continue, mais il y a tellement de choses qu'il faut revoir, enfin auxquelles on doit se réintéresser après ce gros break Elden Ring. Rien que sur les sorties de ce mois-ci, enfin de cette semaine, qu'est-ce que je raconte, de ce mois-ci, il y a Weird West dont tu vas parler, Lego Star Wars qui est sympa pour un certain public, Moss Livre 2 qui est un jeu VR sur PlayStation qui a des assez bonnes reviews, et même les jeux dont je parlais la semaine dernière en disant visiblement le February Apocalypse il se termine pas très bien. Bah en réalité, en explorant un petit peu plus, Kirby, il est très apprécié, alors que je disais que c'était bon moyen. Tiny Tina's Wonderland, il est également assez apprécié. Et bon, le troisième, Ghostwire Tokyo, je crois que j'étais plus juste sur le manque de comment dire, les reviews étaient quand même moyennes. Là, pour le coup, oui, bon, sur Ghostwire, non. Mais Kirby et Tiny Tina's Wonderland, c'est... des trucs qui ont quand même des qualités et qui sont intéressants. Moi, je me demande si je vais pas me lancer dans Tiny Tina's. Et il y a aussi Weird West qui est sorti la semaine dernière, dont tout le monde parle. Bon, bah encore plein de sorties. Je crois que ça commencera à se calmer là en avril. Mais du coup, JK, toi, tu as joué à Weird West et Tiny Tina's Wonderland. Alors, commençons par Weird West, dont on a peut-être un petit peu moins entendu parler. On a plus de mal à le situer.
Ouais. Et qui est plus récent, en plus il vient tout juste de sortir, il est sorti la semaine dernière, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Et je précise déjà que c'est un jeu Game Pass, hein, donc ça fait partie, c'est encore de ces bons petits jeux qui sont dispo dans le Game Pass dès la sortie.
Et, console et PC,
en fait, console PC, ouais, PC ouais. Console, tout à fait. Moi j'ai joué sur PC, hein, et... En fait, Weird West, pour remettre un peu dans le contexte, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Wolf Eye et qui a été cofondé par des anciens d'Arkane Studio. Donc, Arkane Studio, c'est Dishonored, c'est Prey, c'est Deathloop récemment. Et donc, c'est Raphaël Colantonio, notamment, qui était vraiment le fondateur d'Arkane d'origine, qui est parti, en fait, et qui a créé ce studio qui est vraiment de beaucoup plus petite taille qu'aujourd'hui qu'Arkane. Et donc, leur premier jeu, ça s'appelle Weird West. Et ils viennent pas d'Arkane pour rien, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu, ce qu'on appelle dans un jargon un peu lourd, des immersive sims. Donc c'est des jeux d'action-aventure dans lesquels on te laisse vraiment une grande liberté d'approche pour résoudre tes objectifs. Et c'est quasiment presque un jeu de rôle, en fait, très régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au Far West, donc ce qui est pas un setting qu'on a très souvent, mine de rien. Il y a Red Dead, évidemment, mais voilà, c'est pas un setting qu'on voit très très souvent. Et en plus, c'est un Far West un peu twisté, puisque c'est un Far West où il y a des vampires, des cannibales, des monstres, etc. Donc c'est assez rigolo. En plus, par rapport à ce qui se faisait avant chez Arkane, c'est un jeu qui n'est pas du tout vu à la première personne. C'est vrai que ce genre de jeu, souvent, les immersive sims, c'est des jeux à la première personne pour l'immersion, tout simplement, qui fonctionne mieux. Là, ils ont pris le parti, et je pense que c'est aussi une question de budget, de faire quelque chose en vue du dessus, donc en 3D, qui va faire, si, comme point de référence, vous pouvez penser à Divinity Original Sin en termes de représentation, pas du tout en termes d'artistique, hein, mais en termes de représentation. C'est le même type de représentation. Donc, on peut tourner la caméra, on déplace un groupe de personnages, enfin, on déplace son personnage principal qui est accompagné souvent de plusieurs personnages, et on va aller en fait de grande zone en grande zone sur une carte qui est ouverte. Alors c'est pas un monde ouvert dans le sens où c'est des zones et après tu vas te déplacer sur une carte, en fait tu vas faire des voyages de zone en zone et par exemple pour rejoindre un endroit à tel endroit, ça va te prendre par exemple je sais pas moi 2 jours si t'es à pied et 5 heures si t'es en cheval, et tu peux avoir des rencontres aléatoires, il peut se passer plein de choses pendant ces moments là Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu retrouves effectivement tout l'ADN des jeux Arkane dans une version avec un plus petit budget vu du dessus. C'est-à-dire que effectivement, tu peux passer par la cheminée pour tuer ta cible. Tu peux rentrer à coup de pompe dans la porte et tirer dans le tas. Tu peux empiler des tonneaux pour escalader des murs pour pouvoir passer en discrétion, etc. C'est vraiment extrêmement ouvert. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment ce que j'adore dans ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'on te laisse vraiment les clés et on te laisse expérimenter à fond la caisse. C'est un jeu où tu peux vraiment sauvegarder quand tu veux, recharger quand tu veux. Il t'encourage dès le début, en fait, il te le dit pas via des messages, il dit n'hésitez pas à expérimenter, à tenter plein de trucs, vous allez voir que globalement on peut tout faire. Tu peux aussi, par exemple, ils prennent en charge tout ce qui est la physique et le décor. Tu peux renverser par exemple une lampe à pétrole et tirer dedans pour mettre le feu. Tu peux tirer sur des tonneaux empoisonnés. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc voilà, pensez à tous ces jeux, BioShock, Prey, Dishonored, etc., mais en vue dessus, quoi. Et ça marche plutôt très bien, et donc cet aspect-là est plutôt réussi, même si on va dire que le petit budget trahit quand même par moment un manque de finition globale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui marchent moins bien, il y a des petits bugs, etc. C'est pas parfait aux entournures. Par contre, la vraie bonne surprise, c'est l'écriture et le scénario, qui est vachement intéressant, qui est vraiment chouette. T'as plusieurs arcs narratifs avec différents personnages, et les histoires se croisent, c'est très cohérent, c'est très malin. T'as aussi beaucoup de choix dans les dialogues et de choix de quêtes qui ont une véritable influence sur la suite, en fait. Ne serait-ce que tes actes, en fait, par exemple, si tu nettoies un village de tous les bandits, après le village va se repeupler avec des habitants qui vont te remercier, qui vont t'aider, etc. C'est vraiment hyper, hyper malin là-dessus. Après, voilà, faut être prêt à te dire je joue à un jeu de ce style, mais en vue du dessus, avec quelque chose qui peut paraître un peu, qui est pas hyper sexy au premier abord. Faut le reconnaître. Par contre, quand tu te plonges dedans, tu te rends compte qu'il y a énormément de mécaniques, de surcouches de jeu, etc., qui se superposent et qui fonctionnent vraiment bien, entre elles. Et un côté jeu de rôle, parce que tu débloques des compétences, t'as du loot, tu peux t'équiper d'armes, de meilleures armes, etc. En fait, c'est vraiment un mélange entre un Divinity Original Sin pour le côté RPG dialogue et un Dishonored ou un Prey, etc., pour le côté liberté d'approche totale. Voilà, immersif, et ça marche vraiment super bien. Pour un premier jeu, je trouve ça. Alors certes, c'est des vétérans qui le font, mais pour un premier jeu dans un petit studio, c'est vraiment une belle réussite, quoi.
Je précise, il est sur PS4 aussi, donc est Game Pass machin, mais aussi sur PS4 et sur Steam d'ailleurs. Et c'est vraiment, j'en ai entendu un petit peu parler, et vraiment ce que les gens vantent en plus de tout le reste, c'est cet aspect immersive sim à la Arkane, mais qui s'étend à la narration, quoi. C'est-à-dire que vraiment, t'es complètement libre de faire tout ce que tu veux, et si tu refais la même la même section en faisant les choses différemment, c'est pas juste je passe par la porte ou la cheminée ou je donne de l'argent à un garde corrompu pour rentrer dans une maison, c'est pas juste l'accès, et puis au final l'objectif est le même, c'est que vraiment tu as une possibilité de changer les situations de manière assez, enfin, surprenante, quoi. L'ampleur est surprenante de tes choix.
Oui, c'est ça, assez durable, et avec des conséquences que tu soupçonnes pas, en fait, au moment où tu fais tu fais ce que tu as à faire en fait. Et c'est ça qui est vachement, vachement, c'est ça qui est vraiment chouette. Par exemple, si tu vas délivrer un personnage à un moment donné dans une quête, mais un mec complètement lambda, tu vois, et ben ce mec-là, il va te remercier et par exemple, de manière plus ou moins aléatoire, il va intervenir de temps en temps pour t'aider en fait dans les combats. Il passait par là, et il vient t'aider, tu vois. Et il va t'aider que uniquement, évidemment, si tu l'as délivré, si tu l'as aidé, etc. Donc c'est plein de petits trucs comme ça en fait qui fonctionnent très bien et qui fait que t'as super envie de progresser dans le jeu et voilà. Et c'est vraiment si vous aimez l'école Arcane, l'école à l'époque, les Deus Ex, etc. Dans un univers en plus qui est très différent de ce dont on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu, un truc de Far West fantastique, c'est très intéressant.
Jeu à 40€ sur Steam en tout cas, donc c'est pas un jeu full price. Et du coup, l'autre jeu...
C'est intéressant parce que ça reste un jeu indé dans le top des tarifs qu'on a et c'est de plus en plus courant.
Les jeux à 40€, tu veux dire ?
Ouais, ouais, ouais.
J'imagine qu'il y a quand même une certaine ambition de production, là. D'ailleurs, tu le disais, ils ont peut-être eu les yeux un tout petit peu plus gros que le ventre. Mais on est sur un jeu qui est clairement un jeu indé, mais qui a une ambition de jeu, pas triple A, mais je ne sais pas, peut-être qu'on peut dire double A. Est-ce que cette catégorie existe encore,
ouais. Même
le double A c'est...
Ou triple I, peut-être.
Triple I, ouais, c'est... Oui, c'est vrai que c'est pas bête ça. Après, je connais pas la taille du studio, mais je pense pas que ce soit une grosse équipe. Mais il y a ce côté vraiment, ouais, jeu indé entre le petit projet indé, mais sans que ce soit péjoratif, hein, et le double A, un truc voilà entre les deux, où tu sens que c'est aussi des vétérans, donc ils savent aussi, ils ont l'habitude de ce genre de prod. De Colantonio, il a quand même géré des prods 10 fois plus grosses que celle-là, tu vois. Donc j'imagine que ça fait plaisir aussi de revenir à des petits projets. Je sais pas comment s'est passé le développement, hein. Je sais pas, mais je pense que c'est voilà, c'est un studio qui est belge. Je crois qu'ils sont basés à Austin, hein, comme l'était Arcane Austin à l'époque. Voilà.
Super. Et donc, l'autre jeu auquel tu as joué, il est sorti il y a un tout petit peu plus longtemps. Enfin, il y a une semaine, quoi, 10 jours. C'est Tiny Tina's Wonderland, ouais. Dont je disais, comme je disais tout à l'heure, qu'il était peut-être un petit peu décevant pour... c'était un Borderlands de plus. Mais en fait, en prêtant un petit peu plus attention au retour... C'est pas un Borderlands de plus, c'est un Borderlands de plus. Genre sympa, l'humour fonctionne un peu mieux,
voilà,
l'internet est cool. Enfin, tu vois, ça fonctionne un peu mieux, quoi. C'est ça.
C'est effectivement un peu plus qu'un spin-off. Hein, c'est un peu plus qu'un gros DLC. Ça aurait pu être juste un gros DLC. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est drôle parce que c'est le jeu. J'y ai joué vraiment à un moment donné. Tu vois, Elden Ring. On revient toujours à Elden Ring. C'est terrible. Mais tu vois, je commence à saturer parce que c'est un jeu extraordinaire, mais c'est un jeu qui est pesant. Tu vois, jouer à Elden Ring, des fois, tu ressors de là, c'est fatigant, quoi. Mmh. Tiny Tina, c'est l'exemple parfait. C'est le jeu parfait pour te détendre. Tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu sais que tu vas t'amuser d'une manière quasi immédiate, en fait. Tu ne seras pas surpris outre mesure. Mais cela dit, il y a des bonnes idées. Alors, juste, je remets, tu l'as peut-être expliqué dans une autre émission, je ne sais pas, mais à la base, Tiny Tina, c'est un personnage de Borderlands 2 et qui était beaucoup apprécié et qui a eu son propre DLC, en fait, qui était une sorte de parodie de jeu de rôle. Et là, du coup, ça avait tellement... À l'époque, ce DLC avait bien marché. Ils ont décidé d'en faire un jeu complet qui dure 30 heures, quoi. En fait, on incarne un personnage qui est en fait un personnage de jeu de rôle, mais littéralement, c'est-à-dire que t'es en train de faire une partie de jeu de rôle avec Tiny Tina, qui est la maître du jeu, donc c'est une petite fille, hein, d'une dizaine d'années, qui est complètement ravagée, deux autres personnages qui t'accompagnent. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, t'as une narration de jeu de rôle, t'as Tina qui te dit ce qui est en train de commenter ce qui se passe, et qui des fois va dire, ah bah non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est un exemple, hein, c'est pas des trolls, c'est des squelettes. Donc là, t'as les trolls qui se transforment en squelettes, et t'as l'environnement qui change en fait en temps réel en fonction de ce qu'elle raconte. Donc
c'est plus que le gimmick dans la première heure, ça continue sur tout le jeu.
Oui, ça continue. Ça continue. Alors je l'ai pas terminé, mais non, là où j'en suis, ils continuent complètement. Ils assument vraiment le côté jeu de rôle sur table jusqu'au bout, quoi. Et donc t'as ça qui fonctionne très bien. Alors l'humour de Borderlands 3, il a été vachement même du 2, c'est un humour qui est, on va dire, on peut ne pas adhérer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de... C'est très régressif, tu vois, mais je trouve que ça
c'était lourd, c'était un peu beauf. Sur le 1 et le 2, ça passait peut-être à l'époque, ou peut-être qu'ils allaient moins loin, mais sur le 3, ça gâchait pas complètement le jeu, mais ça faisait soupirer régulièrement.
Là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que le 2 et le 3 ont exactement le même ton.
D'accord.
C'est toujours très 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 con. Alors, et je sais pas pourquoi, à l'époque, les gens ont adoré le 2 et disent que le 3 est lourd. Bah, c'est que c'est le même jeu. Enfin,
peut-être qu'on a changé hein, aussi, c'est possible.
Ouais, je sais, ouais, peut-être. Mais alors, effectivement, dans le 2, t'avais le Bojack qui était un héros, un méchant par contre, qui a vraiment marqué des gens. Et le méchant du 3 est un peu nul, mais bon, c'est pas le problème. Et là, je trouve que c'est. T'as pas des blagues, enfin si t'as des blagues à la con, mais il y a une VF qui est super, qui est toujours très bonne. Les VF de Borderlands sont extra, et je trouve qu'il y a une incarnation dans les personnages qui par moments sont tous à fond, tu vois, mais ça marche plutôt bien. En tout cas sur moi ça marche plutôt bien.
Mieux que le 3, c'est ça la question en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé le 3 enthousiasmés par le 2 et qui ont été un peu déçus, et j'ai l'impression que là la plupart des gens disent oui, c'est du Borderlands et c'est Borderlands Gaiden quoi, mais même ceux qui avaient été un petit peu saoulés par le 3 disent « Ah non, mais là, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est fun, c'est léger. » Et comme je disais, Will Arnett qui joue le méchant est bon. Tiny Tina, joué par Ashley Burch, qui est d'ailleurs incroyable, la différence entre ça et Horizon Forbidden West où elle joue Aloy, c'est dingue. Mais, mais ça fonctionne mieux. Toi, t'as l'air de dire « Non, c'est pareil, quoi. »
Ouais. Franchement, après le truc c'est que moi j'aime bien déjà le 3 de base en termes de pour l'humour, donc je suis pas forcément le plus à même de juger. Pour moi c'est à peu près la même chose quoi. Il y a énormément de références à toute la fantasy d'une manière générale qui sont des fois un peu téléphonées, des fois un peu plus subtiles, donc c'est pas voilà. Je peux effectivement si vous avez aimé l'humour de Borderlands 3, vous allez aimer Tiny Tina, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas aimé l'humour de Borderlands 3, je suis pas sûr que Tiny Tina vous fasse marrer plus que ça quoi. Il faut vraiment avoir conscience que quand même on sait où on met les pieds quoi. C'est vraiment une paire de charentaises. C'est du shooter looter. Il y a quand même des trucs intéressants, enfin des trucs originaux, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus axé RPG puisque t'as une fiche de personnage qui est plus complète, t'as des statistiques que t'avais pas avant, etc. Donc c'est plutôt rigolo, t'as beaucoup de quêtes secondaires également, ce que t'avais déjà dans le 3, mais c'est sympa. Et puis t'as ce monde de fantasy complètement à la fois hyper cliché et un peu débile qui fonctionne bien. Enfin moi j'y joue vraiment comme ça, c'est léger, c'est fun, c'est un FPS qui est toujours aussi agréable à jouer. Ça franchement là-dessus ils sont imbattables. C'est nerveux, voilà, les glissades, c'est pas du fast FPS complètement, mais on en est pas loin, tu vois, c'est sympa. Donc c'est un bon petit jeu, mais que je réserve quand même à ceux qui adhèrent déjà de base vraiment fort à la formule Borderlands. Là, franchement, vous allez trouver votre compte quoi. Si Borderlands 3, si 3 a été le point de saturation pour la licence, pas sûr que Tiny Tina change grand chose quoi.
D'accord. Il y a quand même des changements de gameplay. Il y a alors à la place des grenades, on a les sorts et puis.
Oui, il y a des sorts.
Ils ont l'air de montrer, je ne vais pas dire qu'ils promettent, mais ils montrent un petit peu dans les trailers les armes de mêlée. Mais tout le monde dit quand même, oui, enfin ça, c'est un tout petit peu au début. Au final, c'est toutes les armes comme dans Borderlands. C'est pas un jeu de heroic fantasy, genre Donjons et Dragons, je sais plus comment ça s'appelle, machin, and badasses, le truc de Tina. C'est vraiment
c'est,
des flingues,
c'est
quoi.
C'est Bunkers et Badasses.
Ouais, Bunkers and Badasses.
Ouais. Non, mais clairement, oui. Les armes de mêlée, au début, elles sont un peu mises en avant, et effectivement. Ouais, ça, voilà. Enfin, les sortilèges, c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de sorts à débloquer. Ça rajoute en plus des effets visuels assez chouettes pour les combats. T'as un familier aussi avec toi qui va t'aider régulièrement. Et les armes de mêlée, non, c'est pas un jeu de combat au corps à corps. Clairement, l'arme de mêlée, ça va être bien pour achever un mec quand t'es à portée. Mais sinon, ça reste un FPS avec des M16 dans un jeu de fantasy quoi. Des M16 qui tirent des fléchettes quoi. Donc, j'exagère, mais c'est parce que ça, quoi. Et donc non voilà, ça reste un pur FPS hein. Ça il faut pas en attendre d'autre chose quoi.
Très bien, donc c'est Tiny Tina's Wonderlands et c'est dispo sur Windows, PlayStation 4, 5, Xbox One et Series. Et ben merci, je crois qu'on a fait le tour de nos jeux du moment et du coup il nous reste quelques petites news à passer en revue, ce qu'on va faire maintenant, avec d'abord l'annonce que l'E3 2022 n'aura pas lieu, ce qui sera peut-être le clou final dans le cercueil de l'E3. Alors, on a beaucoup parlé de l'E3, est-ce qu'il est encore nécessaire? Est-ce que les développeurs et éditeurs ont envie de payer des millions pour aller dans un salon physique? Mais le salon physique, c'est quand même bien pour faire du business, comme trade show. Il y a plein de gens qui se rencontrent, qui font des affaires et qui trouvent des éditeurs ou qui présentent leurs jeux en physique là-bas. Bon, il n'empêche, l'E3 n'aura pas lieu cette année. Ils disent on va revenir l'année prochaine. ouais, moi, je mettrai pas ma main à couper que ce sera le cas. Et dans le coin, il y a Jeff Keighley qui rigole bien avec son Summer of Games, qui se dit ça y est, c'est bon, je peux reprendre le truc. Mon petit label, il va être partout. Bon, en pratique, ça veut dire que les développeurs peuvent faire leur propre conférence qui est retransmise sur Internet, comme on en parle depuis des années maintenant. Et ouais, l'E3, en plus de tous les problèmes qu'ils ont eus, je crois que là, ça semble indiquer que... C'est dommage, parce que moi, j'aime bien le label l'E3, mais peut-être qu'on dira Summer of Games et ça sera la même chose. Si vous avez un commentaire à donner sur ces petites news que je vais passer en rafale, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour l'E3, par exemple.
Pour moi, ouais, ça Mylène. Dépend, en fait. Ils pourraient revenir l'année prochaine s'ils arrivent à trouver une nouvelle formule et un intérêt et à vraiment marketer la chose pour se distinguer des autres, en fait.
Ça mais fait trois ans cas, qu'on dit ça. Parce qu'ils vont trouver cette année qu'ils n'ont pas trouvé les années précédentes, en fait. Parce que le problème de l'E3, c'est...
un éclair de génie.
Ouais, peut-être. Le problème de l'E3, c'est que ce qui le différencie de tout le reste, c'est que c'est un salon physique. Et aujourd'hui, clairement, alors il y a des avantages à avoir un salon physique, mais j'ai l'impression que plus personne n'en veut. Même malgré les avantages, les inconvénients sont plus importants, surtout la somme que ça demande, quoi.
Ça dépend. Le salon, pour moi, le physique, c'est indispensable pour certaines choses. Tout ce qui est rendez-vous investisseur, enfin, tu signes pas des deals à des millions d'euros à distance, en fait. Ouais. Pareil pour des indés qui ont besoin de trouver des éditeurs, c'est important. Mais oui, ça suffit pas le fait de justifier de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour se rendre à un événement, en fait. Enfin, surtout quand maintenant tu as plein d'événements qui le font autrement.
Oui, c'est ça. Il y a d'autres moments, quoi. Il y a les PAX, les GDC. Bon, c'est pas pour ça GDC, mais il y a PAX, il y a la Gamescom en Allemagne.
Oui, mais les GDC, pour toute la partie business, au final, elles font le taf, quoi.
Ouais. Jika, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai vu te démuter et puis te remuter.
Non, mais j'ajoute. Enfin, je suis assez d'accord. Enfin, je suis plutôt d'accord avec Mylène dans le sens où ils ont quand même besoin. Je pense que les États-Unis, alors, comme tu dis, il n'y avait pas que CDC, mais ils ont quand même besoin d'un événement d'ampleur en fait pour représenter le jeu vidéo aux États-Unis. Enfin, tu vois, en Europe, bon, même si c'est pas forcément le même niveau, mais on a quand même la Gamescom, on a la Paris Games Week. Au Japon, alors je sais pas si le TGS va revenir en physique. Je sais pas si cette année il y a un TGS en physique.
Je crois qu'il revient.
C'est annoncé. Ouais. Je crois qu'il y avait en physique, ouais.
Ouais. Voilà, et donc il y a quand même cette volonté de maintenir des éditions au moins une fois par an sur chaque, on va dire, chaque continent au niveau de l'Occident, tu vois.
Centre,
donc,
ouais,
j'ai quand même du mal à croire qu'il se passe d'un gros événement physique annuel aux États-Unis, quoi. Donc ils trouveront probablement une autre formule, mais je pense que ça va revenir en physique, quoi.
C'est sûr que naturellement, l'ISA, qui est l'Electronic Software Association, un truc comme ça, est l'organisme naturel pour faire ça. Moi, je vois bien Jeff Keighley essayer d'organiser un truc en physique sur une journée, pas avec des... Parce que le problème du financement de l'ISS, c'est qu'il provient essentiellement des stands payés par les développeurs et les éditeurs à l'E3. Et c'est pour ça que ça coûte très très cher et machin. Et du coup, mais l'ISA aussi d'autres fonctions. C'est l'organisme qui est la voix de l'industrie du jeu vidéo dans de nombreuses instances. Enfin, c'est une situation compliquée, mais... À voir.
Ils ont peut-être besoin d'un salon public, d'un gros salon public, en fait.
Ouais, ouais.
Plus que d'un salon qui essaye de. Enfin, qui à la base, le 3, c'était quand même pour, de mémoire, pour vendre des jeux aux distributeurs, en fait.
Mais ils ont essayé de faire cette transition et ça marchait pas non plus. Le salon semi-public, machin, et gros. Moi, je vois mal une Gamescom à la. Bon, peut-être. On ne sait pas. On verra. Moi, je vois bien aussi le
sort. Ce qui m'attriste, c'est que je suis jamais allée à l'E3, en fait. Donc j'aimerais bien un jour pouvoir y aller.
Est-ce que vous pourriez, pour Mylène, en faire encore un et après vous pourrez arrêter. L'autre grosse annonce de la semaine dernière, c'est Eiji Aonuma qui est venu, je dis pas de bêtises, c'est bien son nom, qui est venu dans une vidéo Nintendo nous annoncer que malheureusement la suite de Zelda Breath of the Wild 2 sera décalée de cette année au printemps de l'année prochaine. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils sortiront une Switch Pro en même temps ? Non, je déconne, je ne vais pas. Mais il y a des raisons de... Mais non, je pense pas. C'est trop tôt. Mais oui, donc, grosse annonce. Il reste quand même des titres à Nintendo pour cette année. Clairement, ils n'ont pas besoin de lancer de plus de jeux pour vendre des consoles. Mais c'est quand même un gros événement. L'autre question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, est-ce qu'ils ont vu Elden Ring et ils se sont dit « Oh merde, il faut qu'on enlève des indications, des trucs d'interface. On va laisser les gens encore plus libres que dans le... » Non, ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas pour le même public. Mais voilà, c'était une grosse annonce. Sûr, un petit peu triste qu'on n'ait pas enfin cette suite de Zelda. Mais oui, moi, je pense qu'on a suffisamment de choses à faire pour se dire on va attendre encore un peu, il sera mieux fait, on l'espère sans crunch. Et il sera d'autant meilleur quand il arrivera enfin.
Un jeu sans crunch fait par Nintendo.
Ouais, un jeu comme ça.
Ouais. Alors avec moins de crunch, on va dire. Moins de crunch.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Non, mais oui, après, clairement, qu'ils prennent leur temps, quoi. Si ça permet un peu moins de crunch, je mets d'énormes guillemets, mais un jeu qui soit aussi au moins, enfin, s'ils arrivent à faire un jeu qui arrive ne serait-ce qu'à la suite du premier, ça sera pas mal. Mais, et puis voilà, cette année, on a ce qu'il faut. Je vais pas reciter Elden Ring, mais je le fais quand même, mais voilà.
oui, on a vraiment de quoi faire. Il y avait deux petites choses.
En matière de monde ouvert, je veux dire, voilà, quoi.
Oui, peut-être qu'ils vont le décaler jusqu'à ce que, je sais pas, Sony décide de sortir le troisième Horizon pour le sortir juste la semaine d'après, tu vois, histoire de... Ah, faudrait peut-être un autre développeur japonais qui sorte son monde ouvert, qui casse tout. On avait, alors d'une part, le fait qu'il y a Il dit « Ah, il y a beaucoup de systèmes différents, et en plus on peut aller dans les airs, ça on le savait, mais beaucoup de systèmes différents, complexes, qui font qu'on a besoin de plus de temps pour finir le jeu. » Et puis il y avait une image de la Master Sword qui était un petit peu cassée ou corrompue, donc ça a lancé plein de spéculations, machin, bon, chez les fanzous de Breath of the Wild, dont je fais partie, donc c'était marrant. Mais voilà, la grosse annonce, il n'arrivera pas cette année, c'est, bah oui, un petit peu...
Encore un jeu retardé.
On n'en est pas au premier. L'autre chose dont je voulais parler, c'était l'Epic qui lance officiellement Unreal Engine 5, et c'est clairement un truc qui va intéresser... toute petite partie des auditeurs, parce qu'on est les clés à molette et l'huile de moteur des jeux vidéo. Unreal Engine, c'est un des moteurs principaux, si ce n'est le principal, qui fait évoluer, enfin qui fait marcher une bonne partie des jeux qui sont en développement. C'est du middleware, c'est un truc qui permet de ne pas avoir à coder tous les moteurs de rendu de pixels et de polygones de votre jeu. Vous avez un truc déjà fait. Et en regardant la vidéo de présentation de l'Unreal Engine 5, qui fait une quarantaine de minutes, alors encore une fois, c'est un peu chiant, je ne le recommanderai pas à tout le monde, mais bon sang que c'est monstrueusement ambitieux, cet Unreal Engine. Je ne sais pas si les autres moteurs comme Unity ou d'autres vont aussi loin. Mais là, on n'est pas juste dans un moteur de rendu 3D. Bien sûr, ils ont tous maintenant des moteurs de physique, des moteurs de son, etc. Donc, c'est du tout en un. Mais là, ça va tellement plus loin. On savait qu'ils ont Quixel, qui est des images et des modèles qui sont réalisés en photogrammétrie, donc hyper réalistes, que Epic a racheté il y a quelques années pour l'intégrer à l'Unreal Engine. On a, alors j'ai pris quelques notes, mais on a... les MetaHumans, qui sont donc un moteur de modélisation de personnes ultra réaliste mais hyper customisable. Mais en plus de ça, on a tout un ensemble d'outils de communauté, de tutoriels auxquels peuvent ajouter, la communauté peut ajouter des tutoriels, des petits snippets de code pour on a réussi à comprendre comment on fait ça, ou tel truc. Un développeur partage ses connaissances avec les autres. Enfin, c'est development as a service, quoi. C'est un ensemble de services, vraiment, qui en plus sont gratuits jusqu'à, c'est quoi, $1 million de revenus, je crois, pour les développeurs qui utilisent ce moteur. Donc n'importe qui peut aller le télécharger, commencer à bosser dessus. Il y a même une série de projets inclus au truc qu'on peut customiser pour Ils disent développer votre propre jeu. Il y a un petit FPS compétitif, mais c'est plus pour prototyper peut-être si on est un petit développeur qui n'a pas les ressources pour tout faire de la base. C'est un truc hyper, hyper ambitieux. Ils ont annoncé en plus que The Coalition, des studios de Gears, CD Projekt, on le savait aussi, et Crystal Dynamics sont sur Unreal Engine 5. Ils ont officialisé un nouveau Tomb Raider au passage. C'est hyper hyper ambitieux, et puis surtout le truc à retenir si on est un joueur, c'est que là la vraie next gen pourra commencer dans quoi, 3-4 ans, quand on aura les jeux qui sortiront sur le moteur Unreal Engine 5. Mais c'est vraiment entre Lumen pour l'illumination, Nanite pour les petits morceaux de d'objets dans le monde, enfin c'est monumental comme projet, c'est une pyramide quoi, du développement, ce truc. Pas si ça vous inspire aussi, mais moi, j'étais très impressionné.
Moi, j'ai un petit peu suivi aussi, et c'est vrai qu'ils écrasent. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, après, je suis pas développeur, mais j'ai l'impression qu'en termes de, ils sont imbattables en termes d'offres et de puissance de leur moteur et aussi d'accessibilité, parce que c'est pas pour rien que des studios comme CD Projekt ou Crystal Dynamics passent à l'Unreal Engine, quoi. C'est-à-dire que ils ont un truc qui va leur permettre de créer des open world beaucoup plus facilement, de se concentrer sur d'autres trucs importants, la narration par exemple, et c'est vraiment très impressionnant. Je trouve que ils ont toujours été très bons. Le Unreal Engine 4 avait été impressionnant, le 3 aussi. Mais je trouve que le 5 passe un cap, en fait, qui est vraiment extrêmement impressionnant. Et on aura, alors malheureusement, le développement a été stoppé à cause de la guerre en Ukraine, mais Stalker 2 doit sortir cette année. Je sais, à mon avis, ce ne sera pas le cas malheureusement, mais devait sortir cette année, et a été un des premiers jeux à utiliser le Unreal Engine 5. Et quand on avait vu la démo, rapidement une vidéo de gameplay, c'était déjà super beau, quoi. Et c'est juste un des premiers jeux qu'ils utilisent. Donc imaginez ce qu'on aura dans 3, 4, 5 ans.
Ouais, c'est vraiment assez beau, impressionnant. Quoi. Ils se concentrent beaucoup sur les jeux photoréalistes, mais j'imagine qu'on pourra faire d'autres choses aussi avec. Mais je suis curieux, du coup, Mylène, toi tu travailles plus avec des indés, et j'ai l'impression que c'est un petit peu une grosse machinerie, l'Unreal Engine, et que les indés lui privilégient souvent des trucs comme Unity ou même d'autres solutions qui sont un petit peu plus modestes. C'est le cas, ou qu'est-ce que de ton point de vue à toi, un petit peu plus indé, est-ce que c'est aussi important Unreal Engine, ou on parle vraiment de production AAA qui ne concerne pas autant les plus petits studios?
Non, je connais des indés qui utilisent Unreal Engine aussi. En fait, la bonne question, c'est surtout de se poser, enfin de se demander, en fonction du jeu que tu veux et surtout des compétences de ton équipe, quel moteur tu choisis, en fait. Donc ça va vraiment dépendre des gens, mais oui. Effectivement, moi, je vois quand même un peu plus de jeux sous Unity dans ceux sur lesquels je travaille, quoi.
D'accord. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'imagine qu'il y a du portage de Unreal Engine 4 à 5 qui peut se faire assez facilement. Et puis, les développeurs préparaient ce qu'ils voulaient préparer déjà, avant même la sortie officielle. Puis, un petit mot d'amitié à Tim Sweeney, qui est quand même le geek le plus awkward de l'histoire, quoi. Il a fait l'introduction de la vidéo. Ça vaut le coup d'aller voir, juste pour se rendre compte à quel point c'est un type qui est mal à l'aise devant la caméra, et juste pour parler. C'est la caricature du geek, quoi. Donc, il fait un peu... Je l'aime bien, mais j'ai pas pu m'empêcher de... c'est bizarre, quoi. Quelques petites news très très rapides ensuite. Fortnite a maintenant deux modes, un avec build et un sans build. On pouvait s'en douter, mais c'est arrivé. GTA Plus, c'est un service d'abonnement à GTA Online. Vous pouvez payer quelques sous pour avoir des bonus. Si vous êtes super à fond sur GTA Online, j'imagine que ça pourra vous intéresser. En parlant de jeux service, Gran Turismo 7 répond aux craintes et aux complaintes des joueurs en rééquilibrant un peu son système de récompense et en donnant des sous à ceux qui l'ont déjà acheté, enfin des sous dans le jeu. Les jeux FIFA devraient changer de nom à partir de l'année prochaine. On le sentait poindre avec les discussions de EA et de la FIFA. Ça s'appellera sans doute EA Sports FC, donc à voir s'ils n'auront plus la licence. Un truc qui a ravi un bon nombre de joueurs. Max Payne et Max Payne 2 arrivent en remake de la part de Remedy et Rockstar. Et puis, la dernière news que je veux évoquer, c'est la fermeture du jeu F1 Delta Time, qui est un jeu basé sur les NFT, dans lequel certains ont dépensé de 100 à 300 000 dollars pour acheter un NFT de bagnole à utiliser dans le jeu. Sauf que ils n'ont pas réussi à renouveler leur licence avec la F1, et du coup, le jeu ferme. Et donc, bah voilà, on vous dit
est-ce
que c'est...
Est-ce qu'on peut lâcher un gros chien ou pas?
Mais le pire, c'est...
Non, j'ai envie de rajouter un petit « quelle surprise
!» C'est ça, c'est vraiment le truc... Tout le monde l'attendait. Le pire, c'est que je pense que beaucoup de gens qui sont dans cet écosystème vont dire « Oh, mais moi, je suis content, je me suis bien amusé avec ma bagnole que j'ai payée 100 000 $ et maintenant, je peux l'afficher en fond d'écran, NFT, machin. » Mais bon, enfin, ouais, je sais.
Si les gens sont contents.
Ouais, qui sommes-nous pour leur dire de ne pas être contents ? Bon, d'un autre côté, Ubisoft a terminé le développement actif sur Ghost Recon Breakpoint. Vous vous souvenez, c'était leur jeu sur lequel ils testaient leur système de NFT qui s'appelait Quartz. Bon, c'était des NFT qu'ils ont donné gratuitement. Hein, mais il y a eu en tout et pour tout, quoi, 60, 70 échanges, enfin achats de NFT sur ce jeu pour le début de l'histoire du NFT d'Ubisoft. Je ne suis pas certain que ça soit très probant, toutes ces tentatives, quoi.
C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi à un moment, ils ne se disent pas « Non, effectivement, ça ne marche pas, on a essayé, tant pis. Bon, » Déjà, ça, c'est problématique. Mais non, non. C'est le moment où tu vois un mur et ta tête, elle continue de foncer dedans. Et tu dis « Non, mais à un moment, c'est bon, je vais faire un trou. » Bah oui, allez-y, je vous regarde.
peut-être qu'il y aura quelqu'un qui y arrivera. Bon, on verra à quel prix. Ouais, je crois pas trop non plus. Hein. Bon, bref, on va pas reparler des NFT, d'autant plus que une petite mention pour dire que Undead Labs, le studio Xbox de State of Decay 3, a été mis en avant dans un reportage de Kotaku sur les problèmes de toxicité, de sexisme et de burn-out qu'ils ont connus. Alors, il semblerait que ça soit des choses qui sont dans le rétroviseur du studio. Il semblerait. C'est ce qu'ils disent. Et Microsoft a été impliqué dans le truc. On le comprend à demi-mot. Mais c'est un petit peu préoccupant parce que c'est un studio qui appartient en plein à Microsoft. Et Microsoft a racheté Activision Blizzard. Donc, on se pose légitimement des questions sur la capacité de Microsoft à gérer ce genre de problème. Je serais curieux d'avoir un retour d'expérience sur le studio, on va dire, dans les 6 à 12 prochains mois, pour voir si les choses se sont améliorées. Et puis, dans la catégorie choses problématiques, on a SNK qui est maintenant à 100%, allez, à 96% dans le giron du fonds de développement, comment il s'appelle ? Bref, le fonds de développement du prince saoudien, Mohammed bin Salman, qui est, alors l'Arabie Saoudite est problématique à bien plus d'un titre pour des questions humanitaires, et ils ont investi beaucoup dans des jeux vidéo pour de la diversification de leurs revenus officiellement, mais on est en droit de se demander aussi de quelle manière ça va modeler un petit peu, non seulement ce que les développeurs peuvent faire avec leurs jeux, mais en plus, la manière dont on communique sur le pays ou la culture à travers les jeux. C'est bon, on ne va pas reparler de Jamal Khashoggi, tout ça, mais clairement, c'est je viens de parler d'Activision Blizzard avec lesquels j'ai une relation compliquée. J'adore SNK et tout à coup, ça complique ma relation avec SNK aussi. Bon, je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode du rendez-vous jeu. Je suis désolé de finir sur un downer.
Il y a encore des studios que t'aimes bien et qui sont pas problématiques, hein, Patrick, j'espère.
Sinon, j'aurais fini sur les NFT. Est-ce que c'est beaucoup mieux, tu vois ? Je suis pas sûr.
Non, par contre, moi, je suis hyper content pour un truc plus léger. Je suis trop content de l'annonce des remakes de Max Payne 1 et 2 parce que c'est des jeux, pour le coup, un peu comme Monkey Island à une moindre échelle. C'est vraiment des jeux de mon adolescence et qui avaient beaucoup de choses intéressantes en termes de narration. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire.
C'est, Remedy est un petit peu en train de bosser sur tous les fronts et alors on sait qu'il y avait une licence qui était partagée avec Rockstar, mais on peut se dire peut-être que ça voudrait dire un Max Payne 4 à un moment développé par Remedy, ce qui est quand même une approche très différente de celle de Rockstar pour le 3, même s'il était sympa aussi. Mais oui, le 1 et le 2 c'était des trucs très marquants à l'époque, donc.
Ah ouais, complètement. Et là, avec le moteur de contrôle qui est un super moteur en plus, je me dis que ça peut vraiment être cool, quoi.
Ils seront disponibles, je crois, cette année en bundle, le 1 et le 2 ensemble. Espérons qu'ils seront mieux traités GTA, Trilogy, Collection, machin.
A priori, c'est des remakes, hein. C'est vraiment des vrais remakes, c'est pas juste des remasters.
Ah, j'ai pas. D'accord. C'est des vrais remakes, genre ils reprennent
oui, en fait,
le truc.
De... Bah, ils vont, d'après ce que j'ai lu, ils vont utiliser
oui, non,
le même moteur qui
les mêmes lumières
de contrôle et qu'ils vont utiliser. Voilà, et leur moteur, il est incroyable enfin, en termes de physique et tout. Il permet des choses assez géniales en termes de gunfight. Et alors là, dans un jeu comme Max Payne, ça peut vraiment être cool, quoi.
J'ai hâte. Merci JK de nous ouais. faire terminer sur un truc un petit peu plus positif. Et merci Mylène voilà. d'avoir été avec nous pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire du coup, puisqu'on arrive à la fin, où on peut te retrouver sur Internet, sur Twitter peut-être ?
Ouais, le plus simple, c'est Twitter, _ Konala, _. Voilà.
les trucs faciles, le lien sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Mylène alias Konala. JK, où merci. Es-tu sur Internet ?
Ouais, mais écoute, vous savez où m'en trouver, enfin je sais pas, d'ailleurs peut-être pas, ZQSD, on a fait un nouveau numéro, ça y est quand même, on parle aux surprises de Elden Ring et du Steam Deck, normalement on va en enregistrer un prochain bientôt, on vous promet.
Ah, vous faites un spécial Monkey Island là, c'est l'essence de ZQSD qui est...
Tu crois pas si bien dire, avec Sylvain on est déjà en train de se hugger, de se faire des gros câlins là en prévision. Et puis pour des trucs plus, on va dire, sérieux entre guillemets, tout sur jeuxvideo.com pour des sujets plutôt tech, plutôt orientés à tech, et sur le journal du hardware le vendredi à 16h30 sur le stream en direct. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est possible sur NotePatrick.com. On a une newsletter spéciale r/place qui était une expérience hyper intéressante sur Reddit le week-end dernier. Le rendez-vous tech pour tous les détails là-dessus également, bien sûr. Si vous n'écoutez que le rendez-vous jeu, vous pouvez aller vers le rendez-vous tech aussi. Et puis Super Laser Punch pour les trucs Marvel. C'est aussi sur notepatrick.com. C'est super simple. Hein. Tout est sur notepatrick.com. Et le lien vers patreon.com/rdvjeu est directement dans les notes de l'émission parce que, bon, c'est ça qui est important aussi. Les sous-sous pour soutenir les créateurs que vous appréciez. patreon.com/rdvjeux. Kling Patrick, quand vous rentrez à la maison, les clés dans le bol, ça finit par vous conditionner un Pavlov de Patrick, on va dire ça comme ça. Kling Patrick, merci à vous tous, merci à vous toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode où j'espère je ne sais pas.